la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission Par le bout de la lorgnette, la 43e émission spéciale investiture de Donald Trump, cet grand amoureux des livres et des lettres, de la littérature, Donald Trump. Salut Héloïse.
Hello.
Alors Héloïse, il faut savoir, elle imite très bien l'accent américain, mais plutôt Austin, Texas. Hein. Vas-y Héloïse.
Hey, amazing, enjoy.
Super, merci. Salut Valérie.
Hey, hello everybody.
Non, on t'a pas demandé d'imiter toi par contre.
Oh, c'est pas gentil. On dit qu'on faisait tout avec l'accent américain.
Oui, c'est vrai, on fait tout avec l'accent américain. Alors, qu'est-ce que va donner l'accent américain breton?
Hi everybody.
Salut Pauline.
C'est un effort. Super.
Allez, aujourd'hui on va parler de romans américains et peut-être aller pour faire plaisir parce qu'on a eu des demandes dans ce sens de romans japonais également. En fin d'émission, on va voir si on a le temps. Roman américain, Pauline qui a beaucoup lu un livre, donc on va la laisser patienter, comme moi. Par contre, Héloïse, toi, t'es en pleine forme, t'étais en vacances, t'as pu lire plein de livres. Et donc, tu vas nous présenter un livre américain ?
Alors, j'ai trois albums jeunesse, en vérité, qui parlent de l'Amérique. Et voilà, donc je peux vous commencer par en présenter un premier.
Allons-y.
Qui s'appelle « Les Bacon Brothers ». Retour en Amérique. C'est un album écrit par deux Français, David Cali et Ronan Badel, mais qui parle quand même des États-Unis. Et donc, c'est l'histoire de trois cochons nommés, je vais vous dire ça, Angus,
Ré, Fifi, Loulou.
Angus, Smokey et Pinky.
Mais non, ils sont américains.
Donc, ces trois cochons, en fait, ont eu leur heure de gloire dans les années 70 avec leur groupe de blues. Il y a une petite référence aux Blues Brothers, effectivement. Et il y a un gros buzz autour d'une de leurs chansons, à notre époque, aux États-Unis. Et ils décident, en fait, de faire une tournée, de faire leur comeback aux États-Unis. Donc, ils partent avec leur agent, qui est un loup, et ils partent sur les routes, en fait, des États-Unis. C'est un livre qui est chez ABC Melody, qui édite beaucoup d'albums jeunesse en langue anglaise. Et donc là, en fait, l'histoire est écrite en français, mais ça se présente un peu comme un album, en fait, pour découvrir vraiment les États-Unis. C'est un album touristique pour les enfants, en fait. Donc, on passe à New York, on passe à Memphis, à Washington, à la Nouvelle-Orléans. À chaque fois, il y a une grande illustration. Par exemple, la Nouvelle-Orléans, on parle du carnaval, on parle de choses comme ça. Nashville également. Voilà, donc c'est Indianapolis avec la course des 500 miles d'Indianapolis. Donc voilà, pour les petits enfants qui connaissent pas trop les États-Unis, ça peut permettre de découvrir certains aspects en fait culturels de ce grand pays. Tout, et en plus, on rigole beaucoup, voilà, parce que c'est des personnages qui sont attachants et qui font plein de bêtises. C'est des cochons, donc ils mangent beaucoup. Enfin voilà, et on les suit pendant leur voyage. Et c'est très drôle, c'est intéressant.
Est-ce qu'on y parle de Donald Trump?
Non.
Il n'y a pas d'allusion.
Il peut y avoir des cochons.
Je
qui
vois le catcheur tête de l'art là-haut.
Parce qu'il faut savoir que dans les prochaines années, peut-être qu'il est sorti avant, non?
Oui.
Voilà, il faut savoir que dans les prochaines années, il y aura des références, à mon avis, à ce personnage. C'est quel âge, tu dis enfant, mais...
Oui, c'est vraiment petit, hein, je dirais à partir de 4-5 ans.
Voilà. D'accord. C'est sous forme de bulles, c'est sous forme de...
Non, c'est illustrations et quelques lignes de texte, en fait. Il y a des grandes illustrations.
D'accord, un grand format BD, hein, c'est un format BD.
Oui, c'est un format BD.
Il n'y a pas de...
Et du coup, voilà, pour découvrir, c'est chouette.
Ok, ça traverse tous les États-Unis, on va...
Bah non, parce que tu sais que c'est quand même très grand, les États-Unis.
Tu sais, je vis en Lozère, moi, hein, je ne sais pas...
Non, on traverse quelques villes emblématiques, mais après, et la Death Valley aussi. Mais après, on parcourt pas tous les États-Unis. C'est pas un documentaire, c'est vraiment une histoire qui permet en fait de se qui de a des aspects d'événements. Documentaires, mais c'est pas vraiment exhaustif, loin de là.
Ok, merci Héloïse. On va passer à ta voisine, notre chère conteuse Valérie.
Qui va parler en face du micro.
Voilà. Qui a pris comme résolution de bien parler en face du micro.
Voilà, et on vous rappelle, Valérie sera à la soirée de clôture du festival Contes et Rencontres à Aumont-Aubrac, maison de la Terre de Père. Soyez-y nombreux. C'est quand déjà la date, Valérie?
Début mars.
Début mars. Alors j'ai vu que c'était en même temps que Bérangère Krief au Théâtre de Mende. Donc concurrence.
Faut faire un choix. Et je sais que vous saurez faire le bon choix.
Oui.
Voilà, après, l'avantage d'une soirée de clôture, qui dit clôture, dit fin d'un grand festival. Donc pour ceux qui auraient déjà leur place pour Bérangère Krief à Mende, ils peuvent aller tout au long du festival Contes et Rencontres, voir des super conteurs dans tous les villages de
Lausanne.
C'est
quand même le clou du spectacle, la clôture, hein, toujours à 18h.
Oui, mais bon, 18h, c'est de l'apéro conte.
C'est l'apéro conte. Voilà. Ok.
Belle transition.
Merci. Ok,
je me remets de tes émotions.
C'est dur d'être une star, d'être connue.
N'est-ce pas,
ouais, c'est compliqué.
Surtout quand on n'en a pas l'étoffe, en fait.
Ouais. Moi, voilà. J'ai eu ces problèmes au début aussi. Après, je m'y suis habituée. Ouais. Maintenant, ça va tout
seul.
C'est
ça, c'est ça. Ouais. Mais l'homme est un loup pour l'homme.
Oui.
Et qui connaît de nos jours Ernest Thompson Seton?
Pauline.
Non. C'est un homme aux divers talents qui est né en 1860 en Angleterre, mort à Santa Fe en 1946. Il était artiste, naturaliste, auteur, réformateur, défenseur des Indiens et leur mode de vie, défenseur de la nature et de tous ceux qui la peuplent. Et comme le dit donc Bertrand Fiodo, qui est le traducteur de ce livre et qui signe aussi la postface, Ernest Thompson Seton aurait-il eu raison trop tôt? Nous allons le voir. Donc voilà pour la bio un peu de monsieur Seton. Il est issu d'une famille, une toute petite famille. Hein. Il était le 12e enfant sur 14. Il a immigré en Ontario à l'âge de 6 ans. Et de cette immigration, en fait, son goût pour la nature intouchée, intacte, la wilderness, va s'ancrer de plus en plus donc, au fond de lui. Pour présenter un peu le personnage qui s'est vite tourné vers la nature, il faut savoir que, là, c'est une petite anecdote mais qui m'a fait rire, son père, quand il a eu fini ses études, il retourne voir son père, donc il était le 12e de 14 enfants, et son père lui a présenté la facture de tous les frais qu'avait engendré sa naissance et son enfance.
Oh, purée.
Sérieusement.
Sérieusement, très sérieusement. Il y a le montant marqué dans le livre. C'est superbe.
Son père lui a dit, tiens, Julien, il a dit, non, ça c'est mon frère. Excuse-moi, je me trompe.
Ouais, ouais. Ta mère n'a pas eu de péridurale, pour toi, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est quelqu'un qui, du coup, s'est vachement tourné sur la nature. Et le déclic, en fait, il était très axé nature. Il allait observer les loups, les coyotes, enfin, tous les animaux. Et en fait, le déclic, c'est ses études donc, qui le mènent en Europe. Il va rencontrer une fille. Et cette fille, en fait, son père était un grand propriétaire au Nouveau-Mexique. Et cet homme va lui proposer donc, de les rejoindre au Nouveau-Mexique pour les aider à les débarrasser d'une meute de loups qui décime les bétails depuis des années et dont il n'arrive pas à venir à bout malgré les louvetiers, malgré toute l'aide qu'il pouvait trouver au Nouveau-Mexique. Donc Seton, lui, va accepter parce qu'il avait déjà été chasseur, destructeur, donc comme je le disais, de loups et de coyotes au Canada. Mais en fait, à partir de ce travail-là, sa vie va changer, son existence va changer. Parce qu'au cours de cette mission, il va se métamorphoser en fait, de chasseur en premier grand défenseur de la cause du loup. Puisque jusqu'avant, on va entendre parler du loup comme dans les romans, comme un animal un peu extraordinaire. Enfin, les animaux, ça va être des fables, ça va être des... on va pas vraiment parler de l'animal. Et lui, il va découvrir, en fait, un loup qu'il va appeler Lobo le loup, le seigneur de Kurumpo. C'est là où il le traque. Et il va en faire son premier récit éponyme, donc le livre dont je vous parle, qui s'intitule Lobo le loup.
Histoire vraie. Hein.
Histoire vraie, voilà. Et en fait, même Tolstoï a affirmé n'avoir jamais lu meilleure histoire de loup que celle de Lobo le loup. Au début du livre, donc, Monsieur Seton va préciser que toutes les histoires sont authentiques et qu'elles racontent, en fait, non pas le loup en général, en fait, mais bien d'un animal en particulier. Et il le dit, quel plaisir est-ce qu'on aurait à lire une ébauche de 10 pages sur les us et coutumes de l'homme en général? Non, les lecteurs, ce qu'on a envie, on a envie de connaître les faits d'armes d'un général, on a envie de connaître la vie, la marque de shampoing que va acheter une starlette de télé-réalité. On n'a pas envie de savoir
l'homme en général, et ce serait pas descriptible dans 10 pages. Et lui, en fait, il a fait pareil avec les animaux. C'est-à-dire que l'histoire de Lobo le loup, c'est pas le loup en général, c'est vraiment l'histoire et les traits caractéristiques de ce loup-là.
Et bref. Ce loup-là, c'est un loup exceptionnel, enfin, c'est un chef de meute.
Ouais, il était chef de meute, il était déjà par son gabarit extraordinaire, et par ses actions, il était très malin, il arrivait à déjouer les pièges, et il raconte même qu'une fois, il a non seulement réussi à déjouer un piège, mais en plus qu'il a déposé ses besoins sur le piège, et Seton avait interprété ça comme un signe vraiment d'intelligence. Voilà, et vraiment de plus en plus, il s'immisce dans la nature et il va découvrir. Donc là, on a plusieurs histoires. De la première, donc c'est Lobo le loup. Après, on a la corneille, on a le lapin à queue blanche, la renarde, le mustang sauvage, la gélinotte. Une histoire de deux chiens extraordinaires. Et c'est chaque fois 8 histoires hyper différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Seton, en fait, il précise qu'il maîtrise l'alphabet des bois. Donc, il va traduire le lapin et les autres idiomes des animaux. Et ainsi, donc, vous le comprendrez très bien, cr, cr, pi, pi, en langage corneille signifie...
Attention au piège, Lula.
Non, vous devez très vite acheter et lire ce livre. Et signifie aussi que c'est bientôt la fin de ma chronique. Donc voilà, durant cette lecture, en fait, donc outre l'histoire des animaux, on voit aussi naître l'Amérique telle que moi je l'aime, en fait, avec un peu le mythe de la nature indomptée, sauvage, avec les hommes qui vont l'affronter, l'homme seul avec son fusil, son lasso assez Trump. Sauvage. On en est un peu loin, en fait.
Le mythe de la nature indomptée, de l'homme avec son lasso.
On est fin 1800 sur l'écriture, on ne construisait pas encore des murs.
Mais lui aussi, il est fin 1800. Hein, dans
ses pensées, ouais, mais bon, là, on est plus fin 1800 sauvage, pas. Ouais, voilà. Donc voilà. Et après, par contre, voilà, forcément, cet homme avec son lasso, son fusil, il n'est pas forcément plus malin, mais il est complètement insensible à la beauté, à la grandeur, par contre, de tout ce qu'il est en train d'affronter comme un sauvage. Voilà. Et voilà, ben, si vous n'êtes pas encore convaincu de la lecture de ce livre, que vous n'allez pas le lire, ben, je vais quand même vous lire le meilleur passage du coup, qui ne va rien gâcher à la lecture. C'est ce qu'écrit donc Ernest Thompson Seton, c'est « Est-ce que les créatures sauvages n'ont aucun droit, ni droit moraux, ni droit légaux ? Au nom de quoi un homme inflige-t-il une agonie si longue et si horrible à une créature amie, simplement parce qu'elle n'utilise pas la même langue que nous ?» Et je trouve que cette phrase, elle résume plutôt bien. On se remet dans son contexte. Hein. On n'a d'association protectrice des animaux. On est loin des L114.
Il n'avait pas de djembé.
Non, on est un peu on est loin de ça. Il n'a pas d'autocollant stop au nucléaire sur sa voiture. On est vraiment sur la première personne qui va, défendre la cause animale. Voilà.
Pas se faire des amis, là, Valérie.
Ah, mais j'ai pas de soucis avec ça. Hein.
Du coup, c'est que ça reste quand même un documentaire.
Oui, c'est plein de petites...
Non, c'est d'observation ou des...
C'est de l'observation, mais poussée sur vraiment un animal. Donc ça, c'est presque un roman. C'est des petites nouvelles, en fait, sur la corneille à queue blanche, parce qu'il va observer un animal et vraiment tirer le trait de caractère de cet animal.
Et comment il faisait concrètement
Il observait, il se cachait, il traquait. Ouais. Il a passé sa vie, en fait, à faire ça. Ouais.
Après, en 1800, tu n'avais pas de match de basket.
Il n'allait pas sur Internet, il n'allait pas au concert. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment un super, super livre. Ouais, très, très touchant. Après, c'est pas une écriture... c'est pas un romancier à la base, mais c'est pas une écriture transcendante, mais c'est quand on s'intéresse un peu au personnage et qu'on remet le contexte dans son époque, c'est super, quoi. C'est et puis ce respect qu'il a pour les animaux est hyper touchant.
Oui, surtout après avoir été chasseur, etc.
Oui, voilà, c'est
incroyable.
Il était vraiment passé de la barrière, chasseur, traqueur, décimeur, à ce côté-là. Mais je pense que c'est parce qu'il sait, parce que justement, il a été voir les animaux, non pas dans leur globalité, mais dans...
Oui, dans l'individu.
L'individu même, oui. Voilà.
Merci Valérie, on a un point commun tous les quatre concernant les romans américains, c'est ces romans de pleine nature. Voilà, je me rappelle le roman que tu as présenté la dernière fois, Pauline, de la chasse au bison.
C'est le Wilderness.
Voilà, donc je vais pas te laisser la parole vu que tu as choisi un roman sur l'Australie d'un Australien, donc on ne sait pas pourquoi, sur cette émission consacrée aux États-Unis, mais c'est pas grave, donc je vais parler. Je vais en profiter pour poser une question à Héloïse, donc Héloïse reste bien en place, le fromage attendra. Indian Creek, oui. Qui est un roman de Peter Fromm paru en 1993 aux États-Unis. Alors, Héloïse, en littérature, qui dit hiver dans l'Idaho, souvent, quel genre littéraire découle de l'hiver dans l'Idaho ?
L'hiver dans l'Idaho, peut-être policier ?
Absolument, les polars, le froid, les crimes, et bien...
Les chemises à carreaux.
Meurtres, chemises à carreaux, et bien pas du tout.
Meurtre
pas ici.
À la hache.
Voilà, et c'est pas du tout dans ce livre, ce n'est pas un polar. Pas du tout. Alors, il faut revenir à l'histoire de Peter Fromm, donc l'auteur. Pareil, c'est une biographie, il raconte son histoire, c'est un roman biographique plutôt. Il nous raconte l'histoire de l'hiver 1978 qu'a passé l'auteur au cœur des Rocheuses dans l'Idaho. Donc Peter Fromm, lui, est un étudiant à Missoula. Quand il accepte à l'automne, sur un coup de tête, on ne sait pas pourquoi, il accepte un job qui consiste à passer l'hiver dans l'Idaho à s'occuper de saumon. Ou plutôt à casser de la glace d'une rivière où se situent 2 millions d'œufs de saumon pour que ceux-ci continuent à s'oxygéner pour éclore au cœur du printemps.
Donc c'est un vrai travail.
C'est un vrai travail, voilà, de plus de 6 mois, de 7 mois exactement, voilà, je l'ai noté. De 7 mois exactement, donc c'est pas du tout un trappeur, cet auteur, quand il accepte ce job, parce que finalement, il a 20 ans, il a pas de connaissances spécifiques, mis à part des livres sur les trappeurs qu'il adore, qu'il lit.
Et il a du mal à briser la glace ?
Non, ça c'est pas compliqué. Il a un marteau, il y a de la glace, il la casse. Non, mais et t'es pas dans un conte là, Valérie. Tu ne fais pas des jeux de mots dans cette émission.
Ça, je trouve que les règles 2017.
Ouais, ça change. Hein. Ok, donc alors, je reviens. Alors, donc, en fait, c'est un étudiant qui aime pas trop les études qu'il fait. Famille nombreuse également, donc ça lui permet. Il fait des études en biologiste. Dit, bah, c'est un rapport les animaux, donc il accepte de partir pendant 7 mois là-bas. On lui donne une petite chienne avant son départ, une chienne qu'il va appeler Boone, qui va l'accompagner dans ses péripéties. Et c'est ainsi que débute l'histoire de ce livre, l'incroyable hiver de cet auteur qui va passer entre chasse, dureté de l'hiver dans les Rocheuses, paysages. Donc son travail quotidien l'occupe à peu près une demi-heure par jour. Ben, le reste du temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de devenir un véritable trappeur, donc il va partir chasser, on regarde la neige qui tombe, on piste les cerfs avec lui, on s'enfonce dans les lourdes traces de l'auteur lors de randonnées à raquettes, on monte en haut de la montagne, c'est un peu monde pour rechercher le soleil, parce qu'il est complètement au fond d'une vallée, donc il a le soleil quasiment plus d'une heure ou d'une heure et demie par jour. On le voit dans sa petite tente mettre des bûches dans un poêle à bois pour essayer de se chauffer, manger des haricots rouges qu'il a pris en masse avant de partir. Voilà, en gros...
Sortir de sa tente.
Voilà, c'est ça. On suit l'introspection du jeune auteur. Ça fait rire les filles. On parle de paix, ça fait rire les filles.
Il y avait le geste, il y avait tout.
C'est pour ça que je le dis pour nos auditeurs qui n'ont pas le geste. Merci Valérie.
J'arrête.
Tu me rappelleras te mettre des cris de marmotte. C'est ça.
Donc, Est-ce qu'il a croisé des marmottes dans l'Idaho ?
Non, du tout, absolument pas. Alors du coup, on suit ce jeune homme avec son amour qui grandit finalement pour cette nature. Son dégoût des chasseurs du coin, donc il voit juste quelques chasseurs qui viennent à intervalles réguliers parce qu'il y a trop neige, ils partent, ils reviennent en motoneige chasser, il me semble, léopard ou quelque chose comme ça, je sais plus quel animal. Et qui rompent cette quiétude magique des Rocheuses pour un trappeur qui est finalement seul au monde. Alors c'est extrêmement lent comme livre. Voilà, c'est lent. C'est pas du tout pompeux. L'écriture est super simple. Il y a pas de lyrisme. Contrairement au dernier livre que j'ai pu présenter dans cette émission qui était un peu lourd à digérer. Il y a pas d'action en cascade. C'est pas trépidant. C'est pas le temps. Mais finalement, voilà, on suit cet auteur qui vit maladroitement son aventure avec un peu d'humour, de recul. Il donne pas de leçons que ce soit. C'est simplement beau. Ça repose. Voilà, dans le monde dans lequel on vit actuellement. On a le temps de se poser, on se retrouve un peu comme dans un gîte à côté de Villefort, au calme, sans personne. Et voilà, c'est un récit au coin du feu qui fait sourire, tout
simplement. Et toi, tu aurais accepté à 20 ans ce travail ?
J'aurais bien aimé, ouais.
Ça fait rêver un peu quand même.
Ouais, ça fait rêver. Alors ça, c'est drôle parce que c'est donc Indian Creek de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Donc au départ, je devais présenter un livre que Héloïse m'a donné, je sais pas, il y a 3 mois que je n'ai pas commencé, qui est énorme.
Mais qui va beaucoup lui plaire. En qui plus, va beaucoup c'est ça, me plaire,
voilà. Qui s'intitule le gang de la clé à molette, qui est aux éditions, aux mêmes éditions.
Aussi.
Voilà, parce que c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la nature. La grande
la nature
américaine.
Et les États-Unis, ouais.
Voilà, les grands espaces et pourquoi pas les polars. Voilà. Peter Fromm, Indian Creek, un livre qui vous fera du bien. Est-ce qu'on donne la parole à Pauline ou on fait la pause maintenant, Pauline ?
On peut faire la pause.
Voilà, donc tu as choisi, c'est Loïs qui a choisi une chanson américaine pour Donald Trump. Alors, c'est un peu comme l'investiture d'aujourd'hui, on a eu du mal à trouver des gens qui voulaient jouer pour cette émission, qui voulaient accepter. Donc, du coup, on allait voir du côté du Japon. Alors, je vais donner le titre de l'auteur, de cet artiste.
Oui.
Aeba. Suki, c'est ça?
Oui.
Allez, on écoute de suite.
ただ黙って笑うだけなのよ好き好き好きって私からすがりついてみたいけどなぜか弱いのちょっぴり出ちゃうな本当は彼も抱きしめたいのね意地悪しては困らせる私ごめんなさいって後で呟くのまたまた東京にも行かないでもっと東京を離れずに今は何でも何でも知りたいの私は彼にただ夢中なの抱きしめたいのね
Donc je tape du poing sur la table.
Pourquoi Valérie ?
Mais parce que sur les réseaux sociaux, tu as annoncé qu'on ne faisait pas l'investiture de Donald. Tu as dit qu'on faisait Pearl Harbor 2, le retour du comeback.
Et je me suis trompé.
Et qu'est-ce qu'on met comme musique ? Musique japonaise ?
Oui, ça c'est Louise qui s'est trompée.
Mais tu crois que je peux accepter qu'on parle que...
On s'est trompé.
Vous êtes trompé. Ouais. Personne ne l'avait déjà jamais fait.
Non, jamais.
Et tu crois qu'on peut accepter que de parler que de l'Amérique ?
Ah ben, je ne sais pas.
Parlons du Japon.
Allez.
Parlons du Japon. Vous voulez parler du Japon ?
Allez, ouais parlons du Japon.
Ito. Que dire, Ogawa ?
C'est beau.
C'est avec un grand enthousiasme que j'ai commencé son livre. En effet, le ruban de Ogawa Ito m'avait littéralement transporté. Le restaurant de l'amour oublié m'avait subjugué. C'est donc avec délectation que je pris dans mes mains la couverture juteuse du restaurant arc-en-ciel. Nous mettrons la photo de la couverture sur Facebook.
Le jardin.
J'ai dit quoi ? Le restaurant. Le jardin arc-en-ciel, pardon. Je suis restée bloquée sur le restaurant de l'amour oublié. Son avant-dernier.
Retrouvé.
Oh, ah mais, Pauline, c'est Louise qui lui écrit ses chroniques.
C'est écrit avec plein de fautes.
Oh l'arnaque.
Pressée de découvrir la promesse d'un très bon moment. Je demandais, avant de franchir la porte de la lorgnette, à notre libraire Héloïse, les mains tremblantes d'émotion devant ce nouvel opus, mais également devant les moins 10 degrés, ce qu'elle en pensait et ce qu'en pensaient ses clients. Un doute sommeillait à moi, la barre ayant été placée trop haut sur les deux précédents livres. Héloïse me précise que l'histoire d'amour qui se joue dans ce livre est une histoire d'amour entre deux filles et que parfois il peut arriver que certains lecteurs n'aient pas porté intérêt à sa lecture à cause de ce fait amoureux entre deux personnes du même sexe.
Wow.
Eh bien, tant pis pour vous.
Et tu collectes Trump hein, quand même hein, avec ce livre, même si c'est japonais.
Oh, quand même.
Bah si.
Ceux qui peuvent se prévaloir de vivre en concubinage dans l'insouciance, ce sont les hétérosexuels. Ils n'ont qu'un papier à fournir pour se marier si ça leur chante. Mais pour les homosexuels, la réalité est plus dure. La forme, celle de l'union libre, n'est pas la même, mais entre le pouvoir de se marier si on le souhaite et ne pas en avoir les moyens, même si on le veut, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est l'expérience que vont faire malgré elle Izumi, une jeune femme pré-cadra, fraîchement divorcée, et Kiyoko, lycéenne en classe de terminale, un peu insupportable sur le début du livre, parlant d'elle à la troisième personne. Ni l'une ni l'autre n'imaginait tomber un jour amoureuse d'une femme, disent-elles. Pourtant, je le mets entre parenthèses, la jeune lycéenne se montre très vite, avant la page 30, très adroite sur les jeux de l'amour dont je ne détaillerai rien aujourd'hui, car certains d'entre vous doivent être en train de manger. Bref.
Tu vas nous lire un passage
et pourtant,
quand même après.
Non. Pas de ce passage-là. Donc le coup de foudre aura lieu sur un quai de gare. Donc Kiyoko, notre petite étudiante, a choisi cet endroit pour mettre fin à ses jours quand un petit garçon soudain lui prend la main, inversant sans le savoir le cours des choses. Ce petit garçon, c'est Sosuke, c'est le fils d'Izumi, notre pré-cadra. Il a 6 ans et il ignore alors, avec ce geste malencontreux, qu'il va bientôt avoir deux mamans et une petite sœur conçue avant la rencontre des deux femmes. Rebref. Donc si le début du livre m'a fait un peu lever les yeux au ciel, sapristi, d'où Jésus, deviendrai-je prude, j'ai très vite retrouvé la douceur et le plaisir de lire du grand Ogawa Ito tel que je l'attendais et tel que je l'aime. Si l'histoire du jardin arc-en-ciel n'est pas banale, la façon dont cela est écrit, ça l'est encore moins. En effet, ce coup-ci, donc la romancière choisit de raconter l'histoire de cette famille pas comme les autres, selon différents points de vue de ceux qui constituent la famille en question. Donc on a Izumi, avec son fils Sosuke, et donc Kiyoko et sa fille Takara. Et chacun, donc en fait, sur 4 chapitres, va raconter leur histoire, leur destin, de leur point de vue. Donc tous ces témoignages, en fait, montrent la difficulté de vivre l'homosexualité donc au pays du soleil levant. Mais en fait, si dès le début, ça, c'est très trompeur.
Trumpeur.
Voilà, je l'ai repassé, trompeur. Puisque je disais, voilà, à la page 30, j'étais choquée parce que c'était de suite l'acte sexuel entre deux femmes. En fait, on est très, 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 très loin d'un plaidoyer vibrant en faveur de l'homosexualité. Mais on est sur une longue fable sur la tolérance, l'acceptation de l'autre.
Mais j'imagine que c'est plutôt érotique, c'est pas pornographique, les Japonais.
Là, en fait, si tu veux, sur le début du livre, c'est très court. C'est-à-dire que la rencontre, elle va très vite. Il n'y a pas de suspense, de longueur sur leur rencontre. Et
on arrive d'entrer dans le vif du sujet,
voilà,
bim bam.
Voilà.
Même après les descriptions,
mais
c'est très soft.
Ça dure un quart de page. Mais mais si tu veux, je me suis mis dans la tête de quelqu'un en tête de file de la manif pour tous. Ça peut choquer.
Ah, mais c'est le Japon.
Mais ça dure pas longtemps et je trouve que malheureusement c'est pas du tout à l'image du reste du livre qui est hyper doux et si bien qu'en fait donc Izuki elle est plus âgée donc que sa compagne qui est tout juste majeure et ce qui ressort du livre moi dans le livre en fait les difficultés ou les soucis qu'ils vont avoir en famille. Je reconnaissais plus des difficultés de couples qui ont une grande différence d'âge que finalement de couples de même sexe. Et on oublie, en fait. On oublie qu'on a affaire à un couple homosexuel. Et je pense que là, elle a réussi son pari en montrant que, ben, en fait, oui, tu peux avoir deux voisines ou deux voisins ensemble. L'important, c'est que ces voisins soient bien. Et voilà. Et après, donc, elle ouvre une espèce d'auberge avec des gîtes. Les gens viennent, se confient. C'est très beau, mais... On oublie le pourquoi du comment ils sont là. Donc on est sur une belle histoire, ça passe bien, c'est pareil. Alors par rapport à ces autres livres, il y a un peu plus d'animation parce qu'il y a plus de personnages, il y a plus de passages.
Quels sont ces autres livres?
Mais c'était Le Ruban.
D'accord.
Et le restaurant
qu'on a présenté ici.
Ouais, ouais, voilà.
Ok.
Les deux, on les avait présentés ici, qui était très, très sur le Japon, mélange Japon traditionnel avec ses traditions, modernité, voilà.
Et Louise veut intervenir.
Non, en fait, je peux vous lire un passage si vous voulez.
Oui, absolument.
Tu as trouvé le passage ?
Non.
J'ai une question avant de te poser,
oui,
Louise. J'ai l'impression souvent que dans les romans japonais, on a cette structure d'écriture avec un chapitre qui correspond à un personnage ou à une dynastie ou à une époque. Ouais. C'est le cas dans beaucoup de
oui,
romans japonais.
Oui, c'est vrai que c'est assez cadré, en fait. Le style est assez cadré. Il y a souvent des romans chorales aussi où il y a plusieurs narrateurs, mais c'est vrai qu'un chapitre par voix, oui, c'est souvent le cas, effectivement.
D'accord.
Ils aiment bien faire parler plusieurs personnages aussi dans leur roman, ouais, avoir plusieurs points de vue.
Ok, merci de cette précision. Alors, un passage.
Alors oui, donc comme tu disais, c'est une vraie histoire d'amour, donc c'est un vrai coup de foudre. Et voilà, c'est au tout début. Et donc j'imagine que c'est la maman de Sosuke qui parle. Mm-hmm. Il m'a fallu peu de temps pour réaliser que Shiyoko m'était indispensable. Sosuke est rentré de colonie et je n'ai pas pu la voir pendant quelques jours. Voilà comment, pour la première fois, j'ai compris à quel point elle était importante pour moi. Dans mon cœur, une place lui était déjà réservée. Ce n'était pas seulement dans mon cœur. Dans ma vie, dans mon quotidien, la chaleur de sa présence prenait déjà beaucoup de place.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Voilà,
et c'est très rapide.
C'est très joli. Enfin,
parce que là,
voilà,
t'étais page 35, donc ça montre vite. Non, mais la rapidité avec laquelle ce coup de foudre...
Et
pour l'histoire, parce que j'ai parlé des personnages de l'ambiance, pour l'histoire, en fait, cette jeune fille voulait se mettre fin à ses jours.
La lycéenne
voulait mettre fin à ses jours. La maman donc la retient par le bras, mais sans jugement, lui propose donc d'aller boire un verre. Enfin, et finalement, elles se retrouvent ensemble chez elle. Et très vite, elles vont décider de quitter la ville, puisque le papa donc de Sosuke les avait abandonnées, hein, suite au divorce. Et elles plaquent tout. Avec l'argent du divorce, elles achètent un van et elles partent. Et elles partent vivre dans une campagne japonaise. Et c'est très, très, très beau. Qu'elles appellent le Machu Picchu, enfin, qui est bordé de rizières. Enfin, et après, donc, elles font des travaux, elles rénovent, et elles créent vraiment leur famille. Elles inventent un nom de famille, en fait, pour s'installer. Elles font une contraction de leurs deux noms pour se créer, vraiment, pour avoir une identité de famille. Et c'est vrai que c'est beau, parce que ça montre bien que, plus que les liens du sang, il y a d'autres liens qui peuvent se créer pour avoir l'entité avec un F majuscule de famille.
C'est à quelle époque ça se déroule, à l'heure actuelle, d'accord.
Ouais, c'est contemporain.
Il n'y a pas de PACS au Japon, ça n'existe pas?
Bah, a priori, de tout ce qui est écrit, non. Déjà, déjà la tolérance, elle est plutôt moyen-moins. L'acceptation, alors est-ce que la difficulté vient parce qu'ils sont en campagne ou parce qu'ils viennent du Japon? Je ne saurais pas dire.
D'accord, c'est chez Babel ?
Oui, non, c'est chez Piqué, celle-là.
D'accord, ok. Merci Valérie.
Oui, avec plaisir.
Allez, on va revenir avec des gens sérieux dans cette émission.
Certainement que les États-Unis.
À notre thème, notre investiture à Washington, en ce moment même, de Donald Trump, avec Pauline.
Ouais, avec un livre sur la condition de la femme, donc ça va bien.
Ça va super bien avec l'investiture de Trump.
Ça colle au thème.
Qui s'appelle La couleur pourpre, d'Alice Walker. Alors... beaucoup de gens, je pense, connaissent le film avec Whoopi Goldberg. Peut-être beaucoup aussi le livre, mais je me disais que si les gens ne le connaissent pas, c'est vraiment un livre à découvrir, autant que le film. Hein. Je pense que c'est vraiment à lire.
Un classique.
Ouais, un classique, un grand classique aux États-Unis. Et du coup, ouais, je ne savais pas ici si c'était autant un classique. Donc voilà.
Moi,
le film est un classique.
Le film, ouais, me semble être un classique. Le livre, peut-être un peu moins.
Je l'ai pas lu, je l'ai pas vu.
Eh ben, c'est à lire, parce que.
Est-ce qu'elle est nonne dans le film, Whoopi Goldberg?
Mais c'est bien sûr.
Ah, je l'ai vu alors. Elle est nonne, elle chante et tout le gospel.
Le
ouais, c'est deux ou trois, je sais pas. Ok.
Donc voilà, La couleur pourpre, ça a été écrit par Alice Walker en 83. Et c'est l'histoire de la jeune Cilly qu'on rencontre à 14 ans. C'est une jeune fille noire qui vit donc en Géorgie dans les années 30, qui n'a pas d'éducation. Elle a deux enfants de son papa. Je retourne dans mon thème.
Elle a deux enfants de son papa.
Non, mais même quand je choisis pas tes livres.
Tout seul, ça se fait.
Je pense qu'il y a un travail à faire.
Mais en fait, non, elle est pas. Enfin.
Tu l'as formatée, Louise, à force, tu vois, ça fait 2 ans maintenant, elle est formatée.
Elle écrit, en fait, elle écrit des lettres. C'est à travers ces lettres qu'elle nous raconte sa vie. Et elle se présente pas du tout comme malheureuse. Elle est très innocente, en fait. Donc, elle nous parle, voilà, du fait qu'elle est des enfants de son papa, mais c'est pas larmoyant, c'est pas, elle est pas déprimée, elle en parle, voilà, comme quelque chose de pas facile dans sa vie. Et elle a, voilà, elle a une personne sur qui elle peut compter, qu'elle aime. Tu me casses ma chronique, c'est terrible.
Non, j'ai envie de rire. Je ris pas, je pleure.
C'est vrai que c'est assez drôle. Voilà. Pardon, c'est pas beau, c'est pas non, du tout drôle, en fait. Mais
c'est moins de cadeaux à faire pour les anniversaires, tout ça, c'est la même personne.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et donc voilà, elle a sa sœur, mais elle a malgré tout voilà sa sœur Nettie, avec qui elle a
sa sœur qui est sa fille aussi.
Non, c'est sa sœur. Sœur.
Sa sœur qui est sa tante. Et sa cousine aussi.
Non, mais avec qui elles s'entendent très bien. Voilà, elles ont une vraie relation, elles ont des jeux vraiment à elles. Voilà, elle a rien, mais elle a sa sœur. Et c'est tout ce qui compte. Sa sœur essaye de lui apprendre à lire, de lui apprendre à écrire, parce que sa sœur va à l'école. Silly, elle, c'est un peu bobonne à la maison, donc pas d'école, rien du tout. Jusqu'au jour où Silly va se retrouver mariée à un homme, Albert, qui lui aussi a finalement plus besoin d'une boniche à la maison pour garder ses enfants. Et au départ, il va accepter que Nettie, la sœur de Silly, vienne vivre avec eux, mais il va finir par la chasser. Et Nettie va disparaître, entre guillemets. Célie va la croire morte, elle sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc, elle a plus personne auprès de qui exister, parce que tout le monde l'ignore, elle existe pas, elle a aucune importance. Donc, elle va écrire des lettres à Dieu, la seule personne à qui elle peut s'adresser. Et donc, on lit ses lettres, son orthographe est fragile, l'expression est fragile, c'est peut-être un peu une perte aussi de la traduction, parce que l'édition originale, il y a carrément des mots barrés, il y a des ratures, ce qui est pas dans l'édition française. Il y a un peu la fragilité de l'expression, mais on perd un peu ça dans la traduction. Et donc, elle va faire tout au long de sa vie des rencontres qui vont la construire en tant que femme, finalement, qui vont lui faire découvrir que tu peux exister en tant que femme, que tu peux exister en tant que personne, déjà, parce que au-delà de la femme, elle n'existe même pas en tant que personne. Elle va rencontrer la femme du fils de son nouveau mari. Qui s'appelle Sophia, qui est une femme avec un gros caractère, qui voilà, qui se laisse pas battre par son mari, qui travaille dans le champ, qui est forte, qui a du caractère et qui va un peu la faire sortir un peu de sa timidité. Elle va rencontrer Chou Gavry, la maîtresse de son mari, qui est chanteuse de cabaret, qui est une femme libérée. Bon, finalement, on découvrira qu'elle en souffre un peu aussi d'être aussi libérée. Donc voilà, on va rencontrer plein de personnages avec des caractères très forts et qui vont aider Silly à vivre, à exister. Et ces personnages, ils ont tous un caractère assez génial. C'est vivant, ça bouge, c'est pas du tout larmoyant comme voilà, on en a bien rigolé au début, mais voilà, c'est pas du tout un livre triste ou déprimant. Au contraire, c'est il y a des passages évidemment où on sent un peu voilà, on a un coup de blues, on est mais au fond, c'est quelque chose, un vrai livre sur la vie entre guillemets et sur la femme, sur comment être une femme, comment vivre sa féminité, comment être une femme noire dans les années 30 dans une sans éducation. Donc
voilà. Combo gagnant, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup, tous ces personnages dont tu parles, c'est dans le milieu noir, en fait.
Oui, ouais, c'est principalement. Il y a quelques histoires sur le racisme, quand même, des blancs envers les noirs. Mmh. On est dans les années 30, quand même. Mais c'est pas le thème du livre. C'est plutôt la femme. D'accord. Le thème du livre.
Et est-ce qu'elle retrouve sa sœur?
Je dirais pas.
Que veut dire le titre?
Alors le titre, j'ai cherché un peu sur internet, j'ai trouvé une explication, mais c'était sur un blog, donc je vais la donner quand même. En fait, l'histoire, c'est que Alice Walker se baladait dans un parc où tous les arbres avaient du feuillage pourpre, et il y en avait tellement, tellement, tellement que du coup, on se rendait plus compte de la beauté de chaque arbre, de chaque fleur, et ce serait sur l'insignifiance de l'humain. Il y a tellement, tellement de monde que on se rend plus compte de l'importance de chacun, que chaque humain est beau. Ah, ça semble assez convaincant.
Ouais.
Ouais, c'est sympa. Même si c'est peut-être pas la vraie, on la
oui,
prend.
Oui, ça m'a plu. Ouais, je prends aussi. Ouais.
Whoopi Goldberg, elle joue le rôle principal. Dans
ouais,
le
elle
film,
joue le rôle principal et elle est assez incroyable. Enfin, pour ceux qui l'ont vue, parce que Cilly, c'est une femme vraiment extrêmement timide, qui cache son visage quand elle sourit. Mmh. Tout le monde lui dit sans arrêt qu'elle est moche, qu'elle est.
Ah, c'est une grande actrice.
Et dans ce rôle-là, parce qu'elle a souvent des rôles un peu exaltés.
Elle
n'y
est pas à l'investiture
ou...
de Trump, là. Elle a refusé.
Oh, c'est étonnant. Mm.
En tout cas, c'est bien triste, quand même. Tu me dis que c'est pas triste, mais là, tes explications, ça m'attriste autant que l'investiture de Trump aujourd'hui.
Ah. Ouais. Mais finalement, on en sort bien. On en sort rassuré sur les humains, sur les... Voilà. Mm. Sur plein de choses. Non, c'est plus touchant que triste. Mm.
D'accord.
Ouais.
Très bien.
À
très
découvrir, bien. Vraiment.
Merci Pauline, on se rappellera quand même du genre de livre que tu présentes, même quand on ne te force pas à les lire.
Il y a eu peu de morts, de génocide dans son...
Non, pas de génocide aujourd'hui.
Ouais, ça va, on ne va pas rajouter des...
Bah, généralement, elle a toujours un petit suicide, un petit...
C'est vrai, mais c'est en 1930, il n'y avait pas de...
Ah déjà... oui, il y avait Ku Klux Klan quand même à cette époque.
On en entend peu parler.
Peu.
Ouais. Par contre, pour l'investiture de Trump, sachez qu'il y aura des...
Ils sont tous invités.
Il y en aura au premier rang. Héloïse, allez.
Oui, alors moi, je vais vous présenter un second album qui est vraiment important.
Sans transition aucune.
En ce jour d'investiture de Donald Trump, c'est-à-dire que les Américains doivent se rappeler aussi leur histoire toute récente par rapport à la ségrégation, par rapport à tout ça.
Je crois qu'il oublie, là, en ce moment.
Et oui, mais c'est pour ça que c'est important de le rappeler, surtout aux enfants, je pense. Mmh.
Peut-être qu'il va considérer que c'est un détail.
Un détail de l'histoire. C'est ça.
En parlant de détails, donne-moi ton verre, Valérie, s'il te plaît. Merci.
Donc, l'album s'appelle Le bus de Rosa. Donc, vous comprenez tous à quel épisode de l'histoire ça fait référence, c'est-à-dire Rosa Parks qui a refusé en fait, de se lever dans ce bus pour laisser sa place à un blanc et qui a déclenché par ce petit acte quand même très courageux mais assez anodin, en fait, qui a déclenché toute une révolte et qui a mené à la faillite l'entreprise de bus de Cleveland. Et qui a, enfin, c'était vraiment une réaction boule de neige, quoi.
L'effet papillon.
À partir de ça. Ah, voilà,
du coup,
exactement.
Ah, je savais pas qu'ils avaient fait faillite.
Et ben,
suite à
ça, en fait, Rosa Parks, elle a été arrêtée, etc. Et après, elle a rien revendiqué ni rien. Mais les Noirs ont dit, ben, on prend plus le bus. En fait, on marche et ils ont trouvé des moyens pour rejoindre leur travail, etc. Mais pendant, ça a duré un an. Et ils n'ont pas pris le bus.
Génial.
Pendant un an.
Mmh.
Voilà. Et la compagnie a fait faillite et a dû virer des chauffeurs, etc. Donc ça les a mis bien mal.
Des chauffeurs blancs.
C'est ça. Des chauffeurs blancs, évidemment. Donc là, dans ce livre, Le bus de Rosa, c'est un petit garçon qui s'appelle Ben et son grand-père l'amène à Montgomery, donc au musée Ford. Et donc le petit gamin est tout content parce qu'il dit « Oh là là, le musée Ford, on va voir des bagnoles, des voitures, etc. » Et son grand-père lui dit « Non, 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 c'est le musée de l'histoire américaine et j'ai envie de te montrer quelque chose en particulier. » Et il s'arrête en fait devant ce bus jaune. Et le grand-père raconte l'histoire de Rosa Parks à son petit-fils. Le grand-père était présent dans le bus et il a eu très honte parce que lui, il s'était levé, en fait.
Il était blanc bon.
Il était noir.
D'accord.
Voilà, Ben et son grand-père sont noirs, oui, effectivement.
Ben.
Pardon.
Mais non, mais il a eu honte, j'ai cru que c'était...
Oui, non, il a eu honte, en fait, parce que...
Il ne s'est pas révolté, comme
il
elle.
Il
ne
s'est pas
a
révolté
faire,
du
faire,
tout.
Ouais.
Et voilà, c'est exactement. Et donc, il raconte cette histoire à son petit-fils. Et à la fin, il s'excuse. Il dit, je suis désolée, voilà, de ne pas avoir été aussi courageux, etc. Et donc, c'est très touchant. Et c'est un bon moyen, je pense, d'apprendre cette histoire aux enfants. Voilà.
Il existe vraiment, Ben ? C'est vraiment un vrai témoignage ?
Non, 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 je pense que c'est de la fiction, effectivement.
Et le musée existe aussi, ou pas ?
Oui, le musée, par contre, existe.
Et
tu
le
peux
bus,
aller dans le bus, ouais.
Ah bon ?
Ouais, ouais, ouais.
Génial. À Cleveland aussi ?
Alors, à Montgomery.
Montgomery.
Il me semble.
Et ils mettent
très beau festival
humour.
De musique à Montgomery. Mmh. Oui, Valérie,
Montgomery,
pardon, je t'ai coupé.
Je suis en train de faire de l'humour pas drôle.
D'accord.
Et donc voilà, et les illustrations sont magnifiques. Tout le passé, en fait, quand le grand-père raconte, est en noir et blanc, et le présent est en couleur. Et donc c'est à la peinture, c'est des très belles planches.
Et c'est uniquement sur l'histoire du bus ou c'est sur tout ce qui va se passer après
Ça démarre, en fait, quand le grand-père raconte, ça raconte effectivement l'épisode avec le bus et Rosa Parks. Et après, il explique ce qui s'est passé après pendant un an.
Et il participe après, lui
oui,
à
après,
la...
il participe, effectivement.
Je trouve ça horrible, cette histoire de honte, de ne pas s'être révolté.
Après, effectivement, le grand-père est désolé, il est toujours un peu honteux, il aura toujours honte, en fait, de ça, de s'être levé quand on lui a demandé de se lever, etc. Mais le petit garçon, à la fin, prend son grand-père dans les bras, il lui dit « Mais non, mais de toute façon, c'est pas de ta faute, quoi. Enfin, » voilà, c'est... Non, c'est pas cruel par rapport au grand-père ou quoi. C'est... voilà. Donc c'est intéressant, et pour les enfants, pour découvrir cet épisode historique, c'est très chouette.
Super. Ouais.
Et c'est aux éditions Sarbacane, en partenariat avec Amnesty International.
Très bien. C'est du pastel ou pas?
Je pense que c'est de la peinture, plutôt.
C'est de la peinture.
Et c'est pas trop violent, enfin, dans les explications pour les enfants, des fois.
Il y a de la violence quand même. Hein,
oui, obligatoirement, il y en a, mais.
Non, c'est pas violent. Même à un moment donné, il parle du Ku Klux Klan, etc. Et ça. On ressent la violence, mais c'est pas choquant. Enfin, voilà.
Et du coup, c'est accessible juste... à partir de quel âge? Parce que ça semble un peu difficile.
Oui,
du
coup, je dirais quand même à partir de 8 ans. Mm. Ouais.
Elle avait quel âge, Rosa Parks, quand.
Alors,
ce geste
c'est
de bravoure,
marqué dans le livre, elle était plutôt âgée, il me semble.
Elle était adulte, je pense.
Elle 42 ans. Adulte, voilà. Je suis tombée par hasard.
Elle sortait de son travail, et voilà, de couturière.
Super.
Bon, j'ai un autre album un peu plus léger à vous présenter, qui s'appelle De l'utilité des donuts.
Des donuts.
Ah oui, je sais imiter. Alors, très bien, Homer Simpson.
Voilà. Fantastique. Figure-toi que les donuts sont apparus en France, grâce aux Simpson.
Ah bon. Ah, ouais. D'accord.
Bah, t'avais
je croyais que c'était
donuts,
inventé en France.
Non. On les a eus. Ils ont été commercialisés en France grâce à la grande vague de succès des Simpsons. Voilà.
Quand tu regardais les Simpsons, tu n'avais qu'une seule envie, c'est de goûter.
C'est une fabuleuse pâtisserie.
Moi, ce qu'il y a de boire des bières.
Des buffs, c'est ça. C'était plus accessible.
Les ça
donuts,
existe la marque Buff de bière?
C'est
Duff, ils en ont sorti. Ouais, c'est marketing, hein, mais sinon, je sais pas.
Non, c'est pas une vraie marque.
Non.
Okay. Si, c'en est une.
Bah, ils ont sorti des Duff, mais je pense que c'est de la Budweiser où ils ont mis Duff par-dessus pour faire de l'argent en plus.
À vérifier. Éclaircir ce mystère.
Non, je pense qu'on va remettre notre stagiaire préféré sur le coup.
On va aller à la Servine. On va l'envoyer à la Servine qu'elle demande de Duff pour voir.
Très bien, donc ce livre de l'utilité des donuts, c'est écrit et dessiné par un auteur et dessinateur vraiment classique aux États-Unis. Il a fait plein d'albums qui sont très connus là-bas. Et il s'appelle Mark Alan Stamati. Donc il fait des BD et des albums jeunesse.
À l'encre de Chine.
Mais je sais pas, j'irai au stylo bille où c'est vrai que c'est noir, c'est tout en noir et blanc. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petits points, de lignes, etc. L'image est très chargée.
Comme la robe de Valérie.
C'est pas c'est des points blancs.
Oui, mais sur du fond noir.
Oui.
Tu peux faire ça, tu peux.
Oui, c'est vrai, colorier toute la robe et laisser des trous blancs.
C'est ça.
Ça me semble compliqué. On laisse Héloïse finir.
pour ceux qui, ça me permet de faire une petite pause. Pour ceux qui connaissent par exemple Crumb, l'auteur de BD américain.
Oui, moi je connais.
Voilà. Donc le trait ressemble beaucoup à Crumb, mais pour les enfants. Quoi. C'est pas trash comme Crumb, mais voilà, c'est un trait un peu similaire, je trouve. Donc c'est l'histoire du petit Sam qui vit dans une banlieue américaine. Et donc là, voilà, la première page, c'est « Sam vivait avec sa famille dans une charmante maison. Il avait un jardin et des tas d'amis. » Et là, on a une double page, mais qui fourmille de détails, d'écriture dans tous les sens, de gamins, de... Enfin, voilà, il y a plein de choses, des moineaux...
Hyper
qui...
chargé.
Voilà, très chargé, mais très... Enfin, moi, j'aime bien.
Il y a même un dragon derrière.
C'est un peu un Wee Charlie version noir et blanc.
Sauf qu'il faut chercher quoi?
Le donut.
Oui, il y a plein de choses cachées dans les images et il y a effectivement des donuts cachés. Et donc ça,
je l'ai trouvé.
Et Trump, il y a Trump caché.
Mais je l'ai vu, on l'a dit, il y a un dragon derrière.
Et donc Sam, ce petit garçon, est obsédé par les donuts. Il adore ça. Il vraiment, c'est sa friandise préférée. Bon, ses parents lui en donnent de temps en temps, mais il en a pas assez. Il en veut vraiment, mais des milliers, des millions, ça l'obsède totalement. Alors, il prend son petit tricycle et il va au centre-ville de New York. Et donc, il se retrouve un peu perdu et il cherche au milieu de tout ce fouillis les donuts, il ne les trouve pas. Voilà, c'est un gros fouillis de la ville, ouais, effectivement. Et là, il tombe sur quelqu'un qui s'appelle Monsieur Bickford, qui est un collecteur de donuts de son métier. Donc, il tire une petite chariote, il parcourt la ville et il ramasse tous les donuts qu'il trouve. Et donc, Sam va l'aider dans son entreprise. Voilà, donc...
On attend tous, ouais, on va faire la suite.
Suspense incroyable.
Ouais. Il collecte les donuts dans toute la ville et il croise une vieille dame qui, semble-t-il, est une sans domicile fixe et qui leur dit « À quoi bon les donuts ?» C'est vrai, à quoi bon les donuts quand on a l'amour ?
Oh, c'est beau.
Et là, il se trouve que Monsieur Bickford rencontre l'amour et que Sam se retrouve tout seul. Oh. Avec tous ces donuts, qu'est-ce qu'il peut en faire ?
Bah, les manger.
Et il va trouver une solution géniale. Voilà, je vous en dis pas plus. Il se retrouve avec des milliers de donuts. Il est dégoûté, il a plus envie d'en manger. Que va-t-il en faire ? Voilà. Et donc, c'est très drôle parce que cet album, c'est... voilà, c'est drôle déjà à la base. Vraiment, on rigole. Il y a plein de petits détails très chouettes, etc. Mais il y a aussi une critique assez virulente derrière tous ces dessins des États-Unis et de cette mode de la pub omniprésente dans les rues, etc. Là, on peut pas poser les yeux sur l'image sans voir un espèce de faux slogan partout sur les enseignes, sur les magasins. On croise Lincoln, on croise plein d'icônes en fait de la culture américaine qui sont un peu perdues au milieu de de ces États-Unis modernes et consuméristes. Et donc voilà, il y a ce côté-là intéressant aussi, même si bon, les enfants qui vont le lire et à qui on va les lire, ils vont pas s'attacher à ces détails-là. Mais moi, effectivement, je les ai vus et c'est aussi intéressant ce point de vue-là. Voilà.
Ok, merci. En parlant de ça, de cette culture américaine et de ces remarques qu'on peut y faire, et je crois que c'est, je sais pas si c'est cette semaine, il me semble que c'est la semaine prochaine, sur Arte, il y a Idiocratie qui est programmé à 20h30, je vous le conseille tous, avec Luke Wilson, film excellent sur le futur, sur l'avenir de la société américaine, très très drôle à voir.
Très bien,
Voilà, bon, on va s'arrêter avec les États-Unis, ça y est, Trump est président.
Donc Japon, qu'un seul livre, à Pearl Harbor 2, le retour of the comeback, c'est l'Amérique qui a gagné, c'est ça ?
C'était spécial à ma situation américaine, il faut suivre.
Oui, mais il me semblait pourtant avoir...
Non, du tout, et écoute bien, alors, tiens... Et Louise, on va donner les thèmes des prochaines émissions.
Je le note. Hein.
Valérie,
chers auditeurs, si vous pouviez noter aussi.
Dans deux semaines, ça sera la rentrée littéraire d'hiver. Il y a plein de romans qui sont sortis en janvier qui sont très chouettes et on va vous en parler. Ensuite, les deux semaines plus tard, on parlera des méchants dans les albums jeunesse. Les gros méchants.
Vilains.
Et deux semaines encore après, on parlera de la littérature érotique.
D'accord.
On le programme à 12h30 ou...
On le programme à 12h30, on n'a pas peur, non.
Super.
Ok, on est un peu en avance. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est maintenant. Ou sinon, taisez-vous à jamais.
On pourrait rappeler les titres avec les maisons d'édition parce qu'on n'a pas dit toutes les maisons d'édition, il me semble.
Exactement. Tu as totalement raison.
Pardon.
Sauf que le livre de Pauline n'est plus en vente depuis 1984.
Si, il existe toujours.
La couleur pourpre, à l'époque, c'était J'ai lu. Alors, j'imagine qu'il existe toujours, de toute façon.
Et l'auteur ?
Alice Walker, pardon.
Merci Pauline. Valérie.
Joël Batz, gardien de ma vie, des éditions J'ai lu aussi, 1984.
Ouais. Voilà. Très bien, merci. Et sinon ?
Également, Lobo le loup, le livre qui se passait aux États-Unis de Ernest Thompson Seton. Alors, c'est une édition que je ne connaissais pas, qui s'appelle Biophilia.
José Corti. Voilà. La collection, c'est Biophilia.
De la famille de Philippe Corti,
c'est
DJ.
Ça, le DJ qui a les cheveux longs et les rastas.
De la Churrascaïa.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
T'as lu la Churrascaïa, toi ?
Du tout, non. Ah. Jamais. Enfin, peut-être, mais je ne m'en rappelle plus. Louise. Tu as un autre livre.
Moi, j'ai parlé du
thème.
Japon, monsieur.
Ouais, c'est vrai.
Ogawa Ito, pour son troisième opus, Le Jardin Arc-en-Ciel, aux éditions Philippe Piquier.
Ok.
De l'utilité des donuts, de Marc Alan Stamati, aux éditions Actes Sud BD. Le bus de Rosa, aux éditions Sarbacane. Et les Bacon Brothers, aux éditions ABC Mélodie.
Allez, Pete Fromm qui nous écrit Indian Creek chez Gallmeister. Merci les filles, cette émission est rediffusée lundi à 19h et on se retrouve dans 2 semaines donc pour la rentrée littéraire d'hiver sous la chaleur. Ciao tout le monde.
Bye. Salut tout le monde.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.